Voilà, on est parti pour la seconde partie de ces entretiens. Et donc, nous avons à notre table Alice Lorenzi, auteure notamment La cinquième couche, Au colosse, chez Mycose, on en parlera juste après, et Philippe Marchewski, qui est notre hôte du jour. Bonsoir. Par ailleurs, libraire aussi.
Oui.
Tu n'es pas boulanger, tu es bien libraire.
J'aimerais bien être boulanger, mais non.
D'accord. Bah, nous aurons l'occasion d'en reparler juste après aussi. On va commencer par Alice. Et contrairement à mes petits camarades, je n'ai pas fait de grande présentation. Parce que ma première question, c'était plutôt de demander à Alice justement qu'elle se présente et qu'elle nous explique un peu comment de l'autopublication du Vlaisteuil en 2003. Tu es passé aux Heures de Verre en 2005, il y a le Colosse aussi en 2011. Et puis tu peux aussi nous parler de l'école, tu peux nous parler de tout ce que tu veux, mais que voilà, tu nous présentes un peu ton parcours.
Je n'ai rien préparé non plus.
C'est très bien, c'est parfait.
J'ai recommencé à dessiner assez tard, à 22 ans. Dans l'idée de faire une autopublication, j'étais déterminée. Et je suis autodidacte. J'ai été un an à Saint-Luc-Liège en section peinture, mais ils m'ont recalée. Après avoir sorti In de Vlaisteuil, j'ai rencontré la troupe de Mycose. Et les choses se sont faites assez naturellement. Je suis allée à Angoulême avec eux. J'ai rencontré les Rennais du nouveau journal de Judith et Marinette. J'ai participé au fanzine Mycose. Ils ont publié un récit ou deux. J'ai participé au nouveau journal de Judith et Marinette. J'avais écrit Les Heures de Verre. En fait, ça s'est fait naturellement. Je ne me souviens plus.
De rencontre en rencontre, un peu. C'est souvent comme
les choses se font.
Mais
c'était gay. Hein. Moi aussi, je venais d'un bled. Je ne connaissais aucun auteur de BD. Et Mycose, pour ça, c'était vraiment extra. Ils étaient fort détendus.
Fort détendu et des gens rigolent dans l'assistant.
Tout le monde sait ce que ça signifie. Voilà. Mais est-ce que c'était un milieu qui était propice, parce que c'était détendu, mais ça sentait sous les bras aussi. Il y avait chez Mycose quelque chose qui était assez viril. Est-ce que ça allait pour prendre une place de femme là-dedans?
Bah écoute, je suis liégeoise. Ils étaient liégeois. Je n'ai jamais pensé. Je suis une fille. Non, ça, franchement, je ne sais pas qui y pense. Hein. Mais. Non, ça a été. Je me souviens que la première année, on logeait au foyer des étudiants, je ne sais plus où, c'était catholique. Et il y avait un grand dortoir pour tout le monde et ils ne voulaient pas que les filles dorment avec eux. Ça, je m'en souviens bien. Je ne comprenais pas pourquoi, mais bon. Voilà, mais à part ça, non.
Eh bien, bravo. Et tu n'as pas du tout parlé de ce que tu as fait avant l'âge de 22 ans, parce que tu as dit que tu as recommencé à dessiner, mais ça veut dire quoi
J'étais à l'école, je vivais aussi dans un village, un bled total. J'ai beaucoup lu, je suis plutôt une lectrice de bandes dessinées, de romans et... j'étais pas populaire du tout, mais pas solitaire non plus, je sais plus. Je crois que c'est... C'est le premier petit copain que j'ai eu en arrivant à Liège, qui était peintre, donc j'ai rencontré plein d'artistes prises de tête. Je me suis dit, le marché de l'art, c'est pas pour moi, je vais faire de la BD, je sais plus comment ça s'est passé.
Ok, par rapport à ça, tu as un dessin qui est assez chargé, assez touffu et assez généreux, on peut dire. Donc, ça veut dire que tu es d'entrée de jeu parti avec un dessin comme celui-ci. Est-ce qu'il y a eu des prémices? Est-ce qu'il y a eu parce que on associe plutôt le fanzina à un dessin plutôt rapide, quelque chose qui est photocopiable, donc pas trop matériste, etc. Toi, tu as quelque chose qui est quand même déjà avec un noir bien chargé, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est venu assez vite dans ton travail?
Oui, parce que le dessin ne ressemblait pas du tout à mon projet, donc il fallait que je corrige sans cesse et faire des couches, recoller des papiers. Et puis oui, j'avais envie que ce soit très fouillé, parce que le monde est saturé d'informations. Enfin, c'est comme ça que je le vois, donc c'est comme ça que je le montrais aussi.
Tu parles du monde alors qu'on a l'impression que dans ton travail, ce que tu dessines, c'est essentiellement quelque chose qui est de l'ordre d'un imaginaire déposé sur la feuille. Et donc pour toi, il y a le dessin, ce que tu dessines, c'est cet univers dans lequel souvent il y a des femmes, et un univers qui est plutôt métaphorique, un peu dans sa naissance. Et pour toi, il est extrêmement réel. Ou la question piège.
Non, c'est pas ça. J'avais un début de réponse, mais je l'ai perdu. Ça, non, tout. Peut-être que c'est très imaginaire, mais ça renvoie toujours à la réalité. Si je dessine une forêt, je dessine l'image que j'ai de la forêt le plus précis possible. J'aime bien les détails, ça c'est sûr. J'aime bien qu'il y ait une matière comme ça.
Est-ce qu'à ce niveau-là, par exemple, on parlait de Liège, pour revenir là-dessus, est-ce que Liège, la ville, joue un rôle important? Enfin, dans les heures de verre, j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal d'ambiance citadine, il y a des transports en commun qui sont dessinés. Est-ce que là, il y a une réelle source d'inspiration pour toi, ou est-ce que c'est un bouquin qui aurait pu être fait à Bruxelles ou à Knokke-le-Zoute?
Peut-être, en même temps... travailler ailleurs, ça me réussit aussi. Mais là, c'est vrai que les cafés, les places, ce sont des endroits liégeois. C'est un petit côté chauvin, peut-être, mais c'est aussi une ville que j'aime beaucoup, depuis toujours. Je la trouve spéciale, agréable, un peu miteuse. Et puis la Meuse, comme ça, qui coule au milieu. C'est un personnage aussi, c'est vrai, j'aime bien la mettre dans les bandes dessinées.
Parce que c'est un bouquin, Les Heures de Verre, c'est un bouquin avec un format assez particulier, assez grand, et alors qu'il se lit, je lis ça comme un calendrier en tout cas.
T'es pas le seul à dire ça, t'en fais pas.
On appelle ça à l'allemande.
À l'allemande.
Et donc, du coup, il y a vraiment la place. Stéphane parlait de générosité. Il y a vraiment la place, du coup, pour ce dessin assez détaillé. Et donc, pour ces décors qui jouent, tu le disais, un rôle plus que fondamental, quoi. Donc, ça, c'est. Mais ça en fait une œuvre graphiquement assez particulière. Et,
À l'époque où tu la commences, est-ce que tu viens injecter dedans un imaginaire qui est plutôt. Ou des références qui sont plutôt de l'ordre de la peinture? Tu parlais d'avoir rencontré des peintres prises de tête.
Il y avait qu'un peintre, les autres c'était des écrivains, des musiciens, mais quand même un petit cercle très bavard. Oui, la peinture, mais c'est quand même plus la bande dessinée.
En tant que telle?
Oui. Si je pouvais faire... Non, c'est pas vrai, mais un dessin synthétique me plairait beaucoup. Je ne tiens pas nécessairement. En fait, ce qui m'importe, c'est l'effet que ça fait. Et si ça faisait le même effet avec un dessin synthétique, je serais très contente.
Mais... Tu parlais du fait que les artistes que tu avais rencontrés étaient bavards. Est-ce que être dans le dessin, parce qu'on sent qu'il y a, avec la générosité, il y a aussi du temps de travail. Est-ce que être dans le dessin, c'est aussi s'abstraire et être dans quelque chose d'extrêmement concret qui échappe à la parole?
Je pense que c'est pour justement pallier... Aux difficultés que j'ai toujours eues pour m'exprimer, enfin exprimer mes idées dans des conversations passionnées, donc justement avec ces cercles de pseudo-intellectuels, ça ne marchait pas, j'étais très frustrée et en fait l'écriture m'a fait vraiment beaucoup de bien, socialement aussi. J'étais beaucoup moins énervée, j'avais réussi à placer mon mot, quoi. Bon, on me dit des fois qu'on ne comprend rien, c'est peut-être comme ça que ça doit être, je ne sais pas.
Je peux dire un truc?
Oui.
Il faut imaginer quand... Enfin, bouge-toi les oreilles, je vais froisser ta modestie, mais... Quand Alice a sorti In the Restein, tout le monde était vraiment sur le cul ici. Enfin, cette fille, elle sortait de nulle part, personne ne la connaissait, on ne savait pas à qui elle était, Elle venait d'un bled en dehors de Liège, dans les campagnes. Donc, aucun contact avec... c'est pas méprisant pour le bled en dehors de Liège, mais je veux dire, elle avait aucun contact avec les gens qui se voyaient, par contre, plus régulièrement. Et donc, elle amène un truc qui est tout de suite immédiat, affirmé, pro, une personnalité hyper forte, qui a mis tout le monde sur le cul. Parce qu'elle dit que si elle pouvait faire la même chose avec moins de moyens ou un dessin plus synthétique, mais quand elle a amené ses dessins la première fois, c'est de Vlestein, et je crois que tu avais fait une sorte d'expo aussi à ce moment-là, non? Je me trompe. Où tu avais exposé ou...
Juste les planches, oui.
C'est ça. Et tout le monde était sidéré, absolument sidéré.
Il faut voir quand même une capacité d'affirmation, ce que tu as. Tu te présentes comme quelqu'un de relativement timide, réservé, etc. Mais en même temps, pour faire exister un fanzine comme ça dans le milieu, exposé, etc., il fallait quand même avoir une certaine volonté, quoi. Des tas de gens se contenteraient juste de boire des coups.
Oui, mais je ne suis pas spécialement timide. C'est juste quand je parle de difficulté d'expression, c'est difficulté d'exprimer mes idées. Je n'arrive pas à les formuler. Mais sinon, non. À ce niveau-là, comme je n'y connaissais rien, je ne me suis pas non plus posé de questions. J'ai pas fait d'études où on m'a expliqué comment éditer un livre, le processus normal. J'étais sans a priori, donc je l'ai fait. Et Inde Vlestein, je me souviens quand même que l'imprimeur... c'était le père de quelqu'un qui travaillait aussi pour Mycose, donc j'ai dû avoir des contacts avant, mais je ne me souviens plus.
Wow. Peut-être qu'on pourrait parler un peu de notre ami libraire.
Alors, on va poser un peu la même question à Philippe. Le parcours d'une librairie comme Livre Trésor, vu qu'ici on est dans la seconde implantation.
Enfin, la seconde, enfin, la seule, mais le deuxième endroit. Oui.
Voilà, le deuxième endroit, oui.
On a déménagé, quoi. Oui.
Visiblement, voilà. tu as un background de passionné en bande dessinée. J'imagine qu'il y a d'autres domaines qui t'intéressent dans le livre, mais en tout cas, ici, on est pour parler de celui-ci. Et donc, c'est-à-dire, quand paraît Inde Vlestein, toi, tu es déjà libraire?
Oui, je suis libraire, mais depuis pas très très longtemps. Je ne sais plus, c'est quoi, 2004, 2005?
Inde Vlestein, oui. 2003,
oui, donc je suis libraire depuis un an. C'était quoi la question?
La question, c'est comment est-ce que ça... Donc, quand elle démarre, toi, tu existes déjà en tant que libraire?
Oui, depuis pas longtemps. J'avais ouvert en novembre 2002. C'était une librairie au départ que je voulais principalement axer sur la jeunesse et la littérature pour adultes. Mais dites littérature d'évasion ou ce qu'on appelle un peu de façon méprisante paralittérature, ce que je trouve absolument absurde comme terme, soit. Je le confesse par prétention et en situant en opposition avec l'offre libraire qui existait à Liège à l'époque. C'est-à-dire plus grand-chose, parce que la plupart des librairies avaient fermé... pendant les 15 années précédentes. Donc il restait quelques grosses librairies, une librairie généraliste indépendante, une librairie jeunesse spécialisée indépendante, enfin qui n'était plus tout à fait, mais qui était encore indépendante. Et puis la FNAC, Agora, des chaînes, quoi. Donc moi, je n'aimais pas trop ce qui était proposé, juste parce que je trouvais que ça ne correspondait pas à ce que des gens de ma génération lisaient, par prétention. J'ai extrapolé ce que moi je disais à l'ensemble de ma génération, mais c'est un peu ça le point de départ, c'est-à-dire se proposer quelque chose de différent. Après, je me suis vite rendu compte que c'était absolument impossible de faire une librairie spécialisée dans les années 2000 dans une ville comme Liège. Ça peut être encore possible dans une capitale quand il y a plus d'1 million d'habitants, mais voilà... En dessous de ça, c'est fini ça, c'est terminé. Donc voilà, après on a développé, j'ai eu un associé après un an, Olivier Verskuren, et puis on a développé l'ensemble du fond, quoi. Et la bande dessinée, finalement, on n'était pas là au début. La bande dessinée est venue... moi, j'ai toujours lu énormément de bandes dessinées, mais c'est vrai qu'au départ, c'était... Il faut se remettre dans la... Je voulais pas faire de la bande dessinée dite commerciale, quoique j'aime pas tellement non plus l'appellation, mais enfin, voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Et je lisais globalement, principalement, depuis que j'avais 16 ans. J'avais 16 ou 17 ans quand des indépendants comme l'association Cornelius, etc., ont apparu. Donc moi, j'ai lu principalement ça. Pas que ça, évidemment, mais en tout cas, comme adolescent, j'ai lu beaucoup ça. Donc c'était j'aurais aimé pouvoir vendre ça, mais à l'époque, il faut encore se mettre... en 2002, donc, c'était très, très difficile d'ouvrir une librairie avec des éditeurs comme ça, simplement parce qu'ils étaient... Ils n'avaient pas envie de travailler avec des libraires généralistes. Il y avait une sorte de drôle d'ambiance comme ça, où il fallait tout acheter en ferme, on ne pouvait pas faire de droit de retour, donc il fallait prendre un risque économique assez important, ce qu'on ne peut pas faire au début. Ce qu'on ne peut pas faire après non plus, mais encore moins au début. Et donc au départ, je n'avais pas pris du tout de bande dessinée. Et puis c'est seulement quand on a vraiment développé, puis après avoir fait de la littérature pendant un an et des sciences humaines, on s'est dit, bon, voilà, on essaie de développer un peu la bande dessinée. On avait deux, trois portes d'entrée. Et on a développé comme ça. Puis progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande, parce qu'aussi l'offre libraire qui existait à Liège par ailleurs... se détournait de ce type de maison d'édition-là, ce qui n'avait jamais été hyper représenté, mais il y avait quand même un libraire qui les représentait bien pendant quelques années, puis qui s'en est détourné. Et donc, il y avait à la fois, une place à prendre et un public potentiel qui était là. Et on a développé comme ça. Moi aussi, j'ai le même souvenir que Hugo de la soirée avec Dan Klaus et Chris Ware à Liège. On était, je pense, 7 ou 8 dans un café autour d'une table de café, et on a payé des bières à Chris Ware et à Dan Klaus, qui à l'époque n'étaient pas traduits en français. Enfin, Dan Klaus, il y avait juste comme un gant de velours pris dans la fonte. Voilà, ça c'était en 99. Voilà, c'était un peu ça, l'ambiance à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a potentiellement un public, mais en même temps, il y a 8 personnes pour aller voir Dan Klaus et Chris Ware. Donc, voilà. Je sais pas si je réponds à la question. Si.
Est-ce que donc la librairie a grandi par rapport à son implantation précédente? Et donc ici, on fera quelques photos qu'on mettra sur le site. On est entouré de bouquins, entouré d'un fond finalement assez conséquent. C'est une question qui revient assez souvent pour les librairies. C'est comment est-ce qu'on fait vivre un fond aussi important? Tu parlais du travail, on est en 2013, tu parlais de 2002, de l'évolution. Je dirais combien vous êtes ici très pratiquement dans l'équipe, et comment vous faites pour vivre un tel fonds, pour amener les gens, pour justement avoir pu développer la librairie jusqu'où elle en est aujourd'hui maintenant.
Bon, je pense que c'est assez général, c'est pareil pour toutes les librairies, pour la plupart des librairies. Je crois que c'est une sorte de combat quotidien, c'est difficile. On est 6 pour le moment. Faire vivre un fonds, c'est une question de conception de ce que c'est une librairie. Nous, dans notre conception de ce qu'est une librairie indépendante, c'est-à-dire que c'est d'abord elle est à nous, et on est les seuls responsables de ce qu'on met en rayon, de ce qu'on accepte de prendre en rayon, de ce qu'on met en avant. Donc... faire vivre un fonds, c'est accepter de prendre de très gros risques financiers sur une partie du fonds, c'est-à-dire de mettre clairement de l'argent qu'on pose dans les rayons, en sachant que ce sont des livres qui ne vont pas tourner pendant des mois, voire des années, et que donc c'est de l'argent qu'on immobilise. Voilà. Économiquement, c'est une aberration. Je pense qu'il n'y a pas une seule boîte autre qu'une librairie qui fonctionne comme ça, je pense. Il n'y a aucune structure économique qui dit j'immobilise de l'argent dans quelque chose qui ne tourne pas. Donc ça, c'est une partie du boulot. Et puis pour faire vivre ce fonds-là, il faut accepter, soit on est hyper radical, soit on a beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, on peut se dire, bah, moi, je ne défends que des choses que j'ai vraiment envie de défendre, je n'oriente que des choses que je veux vraiment défendre, et le reste, tant pis. C'est pas notre conception, ça l'a été à un moment, et puis on a évolué aussi. On s'est rendu compte que d'abord, c'était d'un snobisme consommé, et qu'on ne pouvait pas fonctionner comme ça, qu'on ne pouvait pas tourner le dos à une partie du public par idéologie. Et donc, on a décidé d'ouvrir. Donc, ouvrir, ça veut dire accepter de vendre de la bande dessinée, y compris commerciale, qu'on n'aime pas nécessairement, pour pouvoir vendre de la bande dessinée, qu'elle soit commerciale ou pas, qu'on aime bien. Voilà. C'est très bateau de le dire. J'aimerais pouvoir dire c'est possible aujourd'hui d'avoir une librairie où on ne défend que des choses qu'on aime. Je pense que c'est possible, mais à condition d'avoir...
D'être millionnaire.
D'avoir de l'argent derrière soi, quoi. Voilà. Ce qu'on n'a pas. Donc, pour défendre un fonds, bah, c'est un combat quotidien. Pour réussir à maintenir en rayon des livres qui ne génèrent pas d'argent, qui ne participent pas à la vie de la librairie, et de toujours rester sur la crête entre je maintiens un fond et je coule, quoi. Voilà. On est tout le temps le métier de libraire, on est un peu moi je me représente ça comme des gens qui sont dos à une falaise avec du vent qui souffle de face et des ballots de paille qui arrivent en face d'eux. Et les ballots de paille, c'est les livres, les choses qu'on a envie de défendre, et alors on court d'un bout à l'autre de la falaise pour empêcher le vent d'emporter les ballots de paille, et en essayant nous de ne pas non plus être emportés par la bourrasque, quoi. Voilà. Donc faire vivre un fond, c'est ça en fait. C'est tout le temps être à cheval entre ce qu'on a envie de défendre, les bouquins d'Alice, les bouquins de Fifi, les bouquins d'Hugo. Encore une fois, qu'ils soient chez des éditeurs confidentiels ou des éditeurs qui ont pignon sur rue et qui sont des grosses machines commerciales, peu importe. Moi, je m'en fous. Je préfère défendre un très bon bouquin chez un grand éditeur commercial qu'un très mauvais bouquin chez un éditeur indépendant. Mais voilà, c'est tout le temps jongler avec ça, quoi. Jongler avec les différentes contraintes.
À l'heure où les disquaires ferment les uns après les autres, vous avez décidé d'investir dans un petit rayon disque et vinyle. Est-ce que c'est aussi un peu pour vous faire plaisir, ou là il y a aussi un enjeu commercial?
Ben non, mais c'est... Je pense que des librairies comme la nôtre, je pense que c'est pas valable nécessairement pour toutes les librairies, mais une librairie comme la nôtre dans une ville comme la nôtre, elle a intérêt à développer aussi une sorte de commerce de niche. Voilà. Et si je veux pouvoir continuer à défendre des choses que j'aime, il faut que j'aille chercher dans les niches. Voilà. Parce que c'est dans les niches qu'il y a les choses que j'aime. Et il se trouve que l'époque fait que pour le moment, le disque est une niche. Le disque physique est une niche. Voilà. Et qu'il y a un public qui veut ça.
Qu'ils trouvent. Nous, on aime bien. Ailleurs.
Par ailleurs, on fait pas ça. On fait pas ça par mercantilisme ou par cynisme. On fait ça parce qu'on aime bien. Mais voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de choix de société. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça. C'est très très empoulé. Mais je pense que le rôle du libraire, c'est aussi du libraire ou de feu le disquaire, c'est de défendre quelque chose qui va à l'encontre de la masse, du courant de la société. Ça ne veut pas dire être arriéré, ça ne veut pas dire être passéiste, ça ne veut pas dire trouver formidable un bouquin qui sent la moisissure parce qu'il est du XVIIIe siècle. Mais ça veut dire ne pas nécessairement céder à ce que la société décide qu'on doit lire, ou ce que les médias décident qu'on doit lire, ou ce que les masses médias ou la culture dominante décide. Donc si la culture dominante décide qu'on doit tous acheter un smartphone et qu'on se foute complètement des conditions dans lesquelles c'est fabriqué, nous on préfère se dire je préfère qu'on achète un vinyle qui est pressé en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, voilà, les gens sont payés pour le faire, le disque a un prix, a un coût, le livre a un coût, c'est sûr que ça coûte plus cher qu'un fichier téléchargé, voire piraté. Mais c'est un choix de société, voilà. Et nous, on participe à ça. Alors, je n'ai pas de jugement de valeur sur ce que les gens font ou pas, mais nous, on participe à résister à ça, je pense, à notre niveau et sans prétention.
On parlait de la situation de Liège, donc tu es libraire à Liège précisément et pas ailleurs. Et qu'est-ce que ça signifie en termes de porosité entre le public?
Poro, tu veux dire comme les légumes?
Comme les poros, quoi.
En effet, à Liège, il y a beaucoup de poros.
Ok, qu'est-ce que ça signifie du côté des poros, en fait? Qu'est-ce que ça signifie en termes de porosité par rapport au milieu qui peut tourner autour d'une librairie? Enfin, d'abord, parfois au faible milieu, c'est-à-dire que tu dois constituer ta propre clientèle, il faut que les gens sachent que tu es là, il faut qu'ils y viennent. Mais aussi, pour parler du milieu de la bande dessinée spécifiquement, il y a le Fanzina est en recherche constamment de diffusion proche dans des lieux, et donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu as une librairie où il y a la bande dessinée, des gens viennent te montrer des trucs, etc. Donc tu as un rôle à la fois de vendeur, à la fois de premier contact avec quelqu'un qui dit oui ou non, je vais prendre ce truc, etc. Est-ce que c'est un rôle que tu as pris sous quelle forme?
On essaye, mais c'est difficile. Moi, je ne suis pas super à l'aise avec ça parce que le fanzina, ça fait un peu vieux con d'y dire ça, et c'est vraiment pas du tout l'effet que je veux donner à ma réponse, mais. Il y a aussi, c'est lié probablement à la multiplicité des moyens de diffusion aussi aujourd'hui, à Internet, au fait que le format papier n'est pas nécessairement le truc le plus évident pour quelqu'un de 17, 18 ans ou 20 ans aujourd'hui qui veut montrer ses trucs. Moi, je ne me sens pas, quand quelqu'un vient me montrer un fanzine, je ne me sens pas du tout dans le rôle de lui dire « Écoute, c'est vraiment pas bon, je ne le prends pas. » Tu vas refaire quelque chose de mieux, et à ce moment-là, je le prendrai. Je pense que je devrais le faire. Je pense que c'est... Idéalement, ce serait bien que ça se passe comme ça s'il y avait encore 20 librairies indépendantes à Liège, ou avec des points de vue différents, avec des approches différentes, et que les gens se confrontent vraiment à une sorte de premier filtre qui n'est pas un filtre éditorial, mais qui est un filtre de relations publiques. C'est-à-dire, moi, je sais ce que les gens... Je sais sans prétention, mais je sais ce qui va être regardé par les gens, et je peux dire bah ça va être regardé, les gens vont trouver ça très mauvais, remballe-le. Ou en tout cas, où c'est pas abouti, ou enfin voilà. Mais peut-être qu'il irait ailleurs, dans un autre libraire, chez un autre libraire, ou dans un autre point de vente, et que cet autre point de vente lui dirait bah, « Ah, moi, je trouve ça génial, je vois déjà les trois personnes à qui je vais pouvoir le montrer, viens, laisse-le, je t'en prends cinq. » Comme il n'y a plus personne qui fait ça, moi, je me sens un peu tenu d'accepter tout, enfin tout, tout ce qui me semble être de la production de type fanzina, de création, des jeunes qui se testent, des gens qui essayent de faire des choses, même s'ils se loupent, voilà. Parce que je sais que si moi je les prends pas, bah à Liège il y a pas énormément d'endroits où on va les prendre, peut-être deux autres endroits, voilà, maximum. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui font une impression de leur fanzine à 500 exemplaires parce qu'ils sont très motivés, et puis ils en placent royalement 15 dans la ville, donc ils prennent une boîte, et c'est un peu dur de prendre une boîte, je sais que c'est des photocopies, c'est pas cher, mais voilà. Donc nous, j'essaie de prendre tout, mais après c'est difficile, la porosité par rapport à la question de l'agrégation autour d'un lieu comme une librairie d'un public, c'est difficile, parce que en plus, à Liège, Liège a c'est une ville qui est à la fois... Les gens sont très chouettes, très gentils, et tout le monde aime bien se voir, tout le monde aime bien boire des coups, etc. Mais parfois, c'est très, très difficile de sortir les gens de chez eux. Ou en tout cas, de leur sortir le cul de leur terrasse, quoi. C'est-à-dire, s'il fait beau, qu'il y a un verre qui commence, ben, c'est sûr qu'on reste au verre. On ne va pas à un vernissage, à une expo. On va éventuellement à la soirée qui se passe après parce qu'il y a à boire, quoi. Mais on va... Donc, fédérer des gens autour d'un lieu, c'est possible, mais c'est difficile. Donc, a fortiori, pour des gens qui font du fanzine, qui font de l'autopublication, ou qui tentent qui montrent leurs œuvres au début, c'est difficile. Et donc, si des lieux comme nous, qui avons quand même un minimum, un tout petit peu de pouvoir, entre guillemets, de fédérer ou d'agglomérer des gens, ne prennent pas ces livres-là, ce fanzine-là, c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut le faire. Après, voilà, c'est pour ça qu'on fait des expos aussi, qu'on a toujours essayé de trouver un équilibre entre des expos à potentiel commercial, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une boîte à chaque fois qu'on organise une expo, et puis des expos où on demande à des gens débutants ou pas très connus de quand même montrer leur travail, à condition qu'il y ait une chose publiée, qu'il y ait un livre ou un fanzine. Qu'il y ait... Mais c'est pas, il ne s'agit pas d'avoir fait 3 dessins et de les montrer à des potes dans la rue. Il s'agit d'avoir vraiment, d'être passé par l'obligation d'avoir un objet imprimé ou photocopié.
Okay. Alice, on va revenir un peu à toi, parce que le temps avance, on doit plutôt plus ou moins clôturer. Pour revenir sur, je dirais plutôt l'avenir... Tu es finalement une auteure plutôt rare, on va dire, en termes de publication, en tout cas sous format de bouquin. Donc il y avait un moment privé chez Le Colosse, qui est ton dernier projet qui est sorti en 2011, qui est ici. Est-ce que tu as d'autres projets de publication dans un avenir plus ou moins proche? Et j'ai vu, si je ne me trompe pas, que tu exposeras à Strasbourg en juin 2013. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai vu ça?
C'était il y a quelques années.
Oula. D'accord. Alors, j'ai vraiment de mauvaises infos. Mais du coup, est-ce que tu as des projets de publication?
J'ai commencé une nouvelle histoire qui est publiée en épisode dans la revue Récit. Toujours les Rennais. Enfin, c'est pas le nouveau journal de JT Marinette, mais c'est quand même les mêmes personnes.
Ouais.
Et j'avance et un jour sera terminé. C'est une histoire que j'ai écrite en 2005. Et puis après, j'aimerais bien faire une autre histoire aussi, écrite en 2006 peut-être. Enfin, je suis super lente, mais j'avance. Non, j'avance très lentement. Et là, en plus, j'avais commencé à raconter... C'est peut-être parce que c'était publié en épisode. C'était très linéaire comme narration. Et je me rends compte qu'il faut que ça change. Donc, j'ai pris encore plus de temps pour changer.
Quoi donc, c'est au niveau de la narration, tu as un désir de travailler plus de ce côté-là? Parce qu'on a l'impression que tu as un style qui est tellement d'entrée de jeu cohérent et fort qu'on se dit, tiens... Comment est-ce que tu vas pouvoir tenir encore des dizaines d'années avec ceci? Est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir des sauts de quantique ou qu'à un moment donné tu vas faire du José Parondo ou tu as l'impression que tu as trouvé là quelque chose et qui a affiné, a apuré cette espèce de style très cohérent?
Oui, j'aimerais bien, franchement. Mais j'ai déjà essayé autre chose pendant une résidence, le festival Pierre Feuille Ciseaux, là, il y a l'année dernière, enfin, en 2011, j'ai fait 2 planches en copiant le découpage et les bulles de Raymond Machereau. Je me suis super bien amusée, j'ai fait 2 pages en un jour. Je devrais faire ça. Mais ce n'est pas naturel, mais ça marche très bien.
Mais ça va au quotidien, en tout cas, le dessin n'est pas une douleur, c'est parce que. Travailler lentement parce que c'est difficile ou parce que tu réfléchis beaucoup ou parce que tu as beaucoup de plaisir dans le travail et que donc tu le fais durer?
Non, pas spécialement de plaisir. J'aime bien quand c'est terminé. Mais j'aime bien dessiner. J'aimerais que ça aille plus vite. J'arrive toujours pas à formuler graphiquement ce que j'ai en tête efficacement. J'aimerais bien... J'aimerais bien aller vers plus de noir, de blanc, des zones toutes noires et pas ce petit fouillis. Mais là, des fois, je me dis que j'aurais dû quand même aller à l'école. C'est vrai, hein?
Mais non.
C'est sûrement un fantasme. Peut-être qu'on n'apprend pas grand-chose non plus.
Les autodidactes fantasment toujours le pouvoir de l'école.
C'est possible.
Ouais.
Et du coup, Philippe, au niveau de la librairie, vous avez des projets... Enfin, il y a des expos bientôt, c'est...
Oui, la prochaine expo là, qu'on a, c'est une expo collective qui est en soutien à une association qui s'appelle Parole d'enfants, qui est active dans la formation des professionnels qui travaillent avec les enfants qui sont victimes d'abus dans leur famille. Et donc on fait une expo collective parce qu'ils avaient quelques petites difficultés financières cette année. Et donc il y a plein d'artistes liégeois ou de Liège ou d'ailleurs qui ont donné des œuvres qui seront à vendre. Il y a des artistes liégeois, mais il y a des gens comme Emmanuel Guibert, il doit y avoir Dominique Goblet, il y a des gens comme ça. Donc ça, c'est une expo qui commence le vernissage se fait le 19 avril, et l'expo durera jusqu'à fin mai. ou avec les œuvres qui seront à vendre, il y a pour tous les prix, pour toutes les bourses. Et donc, c'est au profit de l'association. Et puis après, ben, on a d'autres expos prévues, mais qui ne sont pas encore confirmées, donc, mais qui seront des choses vraiment bien. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. On va
merci, bon travail.
Durer là-dessus.
Merci.
Merci.